Aujourd'hui, c'est un épisode, encore une fois, très spécial, car il est coproduit avec le média Bisaï. Le sujet du jour, c'est la santé mentale. Quelle est la vision des femmes de quartier populaire sur ce sujet? Peut-on être heureux sans être aisé? Comment se soigner quand on n'a pas accès aux méthodes thérapeutiques ou quand les professionnels de santé ne comprennent pas nos problématiques? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions en vidéo sur Bisaï Média et ici en version longue. Bonne écoute de l'épisode 5.
Salut tout le monde, on dit quoi? Le format vidéo Bisaï Média dans lequel on parle avec des personnes concernées de sujets qui les touchent. Moi c'est Sophia, chargée de communication chez Bisaï, et aujourd'hui on a la chance de pouvoir coproduire avec Annabelle, fondatrice du podcast On est là.
Alors On est là, c'est le podcast qui est dédié aux femmes des quartiers populaires pour leur donner tout simplement la parole là où elles n'ont pas souvent la parole tout simplement. Et le sujet du jour c'est: est-ce que la santé mentale c'est un truc de riche? On a des invités avec nous qui vont se présenter.
Alors moi du coup je m'appelle Kionintra et je suis thérapeute.
Et moi je m'appelle Asitane et je suis artiste peintre.
Ça claque hein, pardon mais les présentations claquent de ouf.
Du coup les filles, première question que j'aurais à vous poser c'est: quel est votre rapport à tout ce qui est lié à la santé mentale? Est-ce que votre rapport a évolué ou pas?
Du coup moi mon rapport à la santé mentale, enfin aujourd'hui c'est quelque chose qui c'est un peu ma boussole en fait dans ma vie. C'est ce qui me permet de savoir en fait comment je me sens. En fait vraiment mon rapport à moi-même dépend de ma compréhension de ma santé mentale, de où j'en suis, de mes mécanismes, etc. Et ça a énormément évolué au cours du temps. Je pense que j'ai pas du tout été élevée dans un environnement qui traitait ça comme quelque chose même d'existant, on va dire. Donc en fait, je pense que c'est au fur et à mesure, en grandissant, j'ai constaté des anomalies, des difficultés que j'avais, que ce soit dans ma relation avec les autres ou avec moi-même. Et c'est là que j'ai commencé en fait à me pencher sur le pourquoi. Et ben, du coup, le sujet de la santé mentale est arrivé dans ma vie.
Et moi, du coup, bah, c'était un sujet qui me préoccupait pas quand j'étais plus jeune. Parce qu'effectivement, on nous dit que pas forcément avoir cette conscience de la santé mentale. Par contre, indirectement, je me sentais concernée à travers l'art, parce que la danse, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée et apportée avec la musique pour pouvoir mieux gérer mes émotions, comprendre et en tout cas me sentir en sécurité pour m'écouter. Donc au fur et à mesure du temps, ça m'a permis de mieux me découvrir et par la suite, j'ai pu commencer une thérapie pour me découvrir. Et là, je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait un vrai sujet et une incompréhension par rapport à d'où je viens, ma culture, qui je suis, et c'est pas forcément pris en considération dans le milieu thérapeutique. Donc j'ai décidé par la suite de moi-même devenir thérapeute pour apporter un cadre qui permet aux gens de se sentir respectés et écoutés pour ce qu'ils sont. Donc oui, ça a évolué dans le temps, et au final ça m'a permis de créer quelque chose qui permet de répondre à un besoin qui n'était pas forcément respecté, en tout cas à l'époque.
Quelle dame,
incroyable.
Ça claque de dire ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que du coup, je sais que moi, quand j'ai voulu voir une psy, ma première crainte, ça a été de me dire, mais elle va jamais comprendre mes problématiques. J'imaginais un psy ou un thérapeute ou un accompagnement psychologique, en tout cas, qui allait être très genre un homme de 50 ans, vieux, dans un petit cabinet
ouais,
comme ça.
Dans la série.
Et je me suis dit, mais moi, je vais arriver, c'est ces mêmes hommes qui me traumatisent au quotidien. Je vais aller les voir en disant, je suis malheureuse, il va me traumatiser encore plus. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de se dire, bon attends, moi je suis passée par plein d'étapes dans ma vie, dans ma santé mentale, etc. Genre j'ai peut-être galéré peut-être à des moments à trouver, etc. Et de me dire, eh ben tu sais quoi, maintenant que moi je suis sur la voie de la guérison, maintenant que moi j'ai trouvé un peu comment me gérer, comment vivre et tout, bah, je vais transmettre et je vais créer ma propre branche en fait pour être un endroit rassurant en fait pour des personnes qui cherchent une aide. Et ça j'ai trouvé ça iconique parce que faut savoir qu'on s'est appelé avant pour sélectionner des profils, et quand tu m'as dit ça j'ai dit bon allez je note ton nom parce que qui dans sa vie dirait écoute moi la santé mentale je connais parce que maintenant je suis thérapeute donc voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup la question peut-être que j'aimerais bien vous poser c'est: est-ce que vous avez eu des difficultés en fait à trouver un accompagnement psy, et quelles ont été les difficultés? Est-ce que c'était plutôt financière ou est-ce que c'était plutôt de l'ordre de la peur de se dire mais en fait je vais aller voir qui et qui va me comprendre en fait, et est-ce qu'on va pas minimiser en fait ce que moi je ressens? Voilà. À vous de me dire.
Ok. Alors moi, du coup, quand j'ai voulu me faire accompagner, moi, je suis pas psychologue, je suis vraiment thérapeute, je suis hypnothérapeute et sophrologue, donc ça n'a rien à voir. Et je suis partie dans un premier temps une psychologue et je me suis pas du tout sentie comprise. Et ça m'a même encore plus frustrée et renfermée, parce que j'ai dû parler pendant X temps. Je la voyais qu'elle essayait à peu près de comprendre ce que je lui racontais, mais en fait, elle comprenait pas du tout. Et elle faisait rapidement des conclusions qui respectaient pas ma situation. Donc, ça m'a renfermée sur moi. Donc, En fait, il y a eu plusieurs sujets. Le fait de me dire qu'effectivement, j'avais devant moi des thérapeutes qui ne comprenaient pas pleinement ma situation parce qu'ils n'avaient ni la notion de culture, ni la notion d'environnement. Donc ça, c'était hyper frustrant pour moi. Et il y avait effectivement aussi le côté financier parce que faut faire des... tu dois prioriser. Ouais. Soit tu prends en charge ta santé mentale, soit tu pars en vacances, soit tu payes tes factures. Donc il fallait vraiment prendre tout ça en considération. Moi, je sais que j'ai dû recommencer pendant un an pour me dire « je vais me faire accompagner et j'ai choisi tel thérapeute qui pourra... » mieux me comprendre, même si elle prenait pas tout en considération, mais ça avait déjà été un grand début pour moi, pour me découvrir.
Oui, je pense qu'au début j'ai eu des difficultés, du coup je me souviens que j'essayais de chercher, enfin je tapais un peu mes symptômes, on va dire, sur internet, chercher des vidéos YouTube ou des trucs pour mes... enfin je sais pas si vous savez, il y a la chaîne Psych2Go là.
Ouais,
non, je connais pas.
Ouais, je me butais à ça pour essayer de comprendre ce qui se passait en fait. En gros, c'est, ils disent un peu les pathologies qu'il peut y avoir, les symptômes, mais enfin, c'est pas un vrai diagnostic du tout.
C'est de la vulgarisation.
Ouais, voilà, concrètement. Ouais, ouais. Au bout d'un moment, en fait, j'ai cherché une thérapeute, et je suis tombée sur Instagram, assez étonnamment, sur une thérapeute qui était en Angleterre.
Ok.
Donc, j'ai regardé un peu son expérience, les témoignages de ses clientes, etc., et je suis entrée en contact avec elle. Du coup, il y avait un entretien préliminaire et tout pour voir si j'allais le faire, etc. Et ça m'avait, c'était une thérapie de groupe et c'était sur 3 mois. Ça devait coûter 600 et quelques, mais ça m'a coûté 500 euros. Et à l'époque, j'étais encore étudiante, du coup, j'avais que ma bourse. En plus, ça, j'avais commencé à faire de la peinture, donc j'avais beaucoup de dépenses et tout. Et je me souviens que c'est vrai que pour le paiement, j'étais malheureuse. Je me souviens que j'avais payé mon BAFA et j'ai dû demander un remboursement de mon BAFA pour pouvoir payer en fait la thérapie. Parce que c'est une question de priorité. Là, pour moi, c'était un peu ma paix intérieure qui était en jeu. Donc, j'avais pas d'autre choix que de faire
Question de survie, en vrai.
Exactement. Mais c'est vrai que c'est une femme noire qui porte le voile. Du coup, je me suis tout de suite sentie rassurée par rapport à ça. Voilà. Donc, je me suis dit, moi,
bien de le préciser en Angleterre.
Non, c'est vrai.
Mais faut préciser.
Parce qu'en France, ça n'aurait pas été possible. En effet. Donc c'est sûr que oui, ça m'a rassurée, mais ça a été compliqué quand même.
Et aujourd'hui, en France, t'as trouvé peut-être un endroit, un cabinet où tu te sens accueillie, où tu y vas, ou t'es toujours en mode « je vais en Angleterre » ou encore ailleurs, je sais pas.
Non, du tout. J'ai rencontré par hasard une thérapeute il y a quelques mois en faisant du sport.
En faisant du sport ?
En faisant du sport.
Ok.
Et j'ai été invitée en fait par un média, je me suis inscrite à un événement, c'était la coupure du jeûne, et puis après on faisait du sport, après on faisait un dîner ensemble et tout. Et il y avait une thérapeute qui avait participé à l'événement avec moi. Donc du coup je lui ai parlé et puis en fait on a fait connaissance. Et par la suite on s'est recontacté et j'ai pu faire quelques séances avec elle. Et ça m'a vraiment... Mais c'était une Française, après elle est noire aussi, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais c'était en France cette fois-ci, donc c'est cool.
Mais du coup les filles, j'aimerais bien rebondir sur un aspect commun que j'aperçois dans votre discours, c'est le fait que vous vous sentez comprise lorsque la personne d'en face vous ressemble. Donc ça peut être dans des traits physiques, ça peut être dans des traits religieux, ou ça peut être dans un héritage culturel. Du coup, la question que moi je vous pose, c'est est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a un lien entre héritage culturel et relation qu'on a avec tout ce qui est santé mentale, émotion, rapport avec soi-même, etc.
Bon, je pense que oui, forcément, parce que culturellement parlant, personnellement, je suis malienne d'origine.
Okay.
Et il y a le truc de la pyramide de Maslow et des besoins, etc. Moi, mes parents, ils sont immigrés. Ma mère, elle nous a élevés seuls avec mon frère. Après la primaire, et du coup quand on est en mode survie comme ça, et ça c'est dû aussi à la culture, au fait que je sois une fille d'immigrée, on pense pas du tout à la santé mentale en fait, c'est pas la priorité. Moi j'ai été élevée, on m'a appris à penser au fait de manger, au fait d'avoir une maison propre, au fait d'être sûre que les factures sont payées, que je dois rien à personne. Mais c'est vraiment c'est la survie, c'est la base, le b.a.-ba. Et quand il s'agit de la santé mentale, je pense que c'est un peu au-dessus des forces déjà d'une personne qui essaie d'élever 2 enfants seule. Et en plus, je pense que c'est même pas quelque chose... Enfin, c'est un luxe, on va dire. C'est un luxe, on se dit, j'ai pas le temps de penser à ça. Aller parler pendant 2 heures à quelqu'un de ma vie, j'ai pas le temps parce qu'en fait, faut que je travaille, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça.
Ouais.
Donc, pour moi, c'était pas envisageable. Et je pense que la culture joue beaucoup parce que... il y a une culture de... Je pense qu'il y a la culture malienne, mais il y a aussi une culture de survie qui se crée, en fait, avec le fait d'être immigrée.
Ouais, ouais, ouais. Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord.
Ouais, complètement. Je te rejoins avec tout ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, ça reprend la notion de transgénérationnel que je reprends dans mes accompagnements. C'est que notre culture va directement impacter qui nous sommes et notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Donc ça, c'est... t'as dit un truc important, c'est quand t'es enfant d'immigré, fille d'immigré, ou que tu es tout simplement immigré, ce qui se passe, c'est que t'es pas forcément au même niveau par rapport à tes besoins. Donc moi, je sais que mes parents, bah, pareil, mon père, il est arrivé d'Algérie, il avait 20 ans. Ma mère, elle est née en France, mais moi, je suis d'origine algérienne, donc ils sont nés en 62. La guerre d'Algérie s'est terminée en 62. Ouais. Donc autant vous dire que pour eux, santé mentale, bonheur, joie, ça veut rien dire. Quand je dis à mon père, bah, comme dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie, je dis, bah, c'est être heureuse. Ouais. Il va dire, mais en fait, ma fille, qu'est-ce que tu me racontes
C'est la question.
Ouais, tu vois, c'est non, pour moi c'est être travailler, avoir un toit, et là tu te rends compte que effectivement on a la chance aujourd'hui, nous, de pouvoir aujourd'hui parler de santé mentale, parce que nos parents ont pu nous apporter un cadre sécurisant. Donc des fois on leur en veut parce qu'ils nous ont pas apporté d'amour, d'affection, donc on va voir une thérapie en disant c'est à cause de mes parents. Donc là on en revient à ce que je t'ai dit, où je me suis pas sentie comprise, parce qu'on me parlait de parents toxiques, sauf que moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est pas que mes parents sont toxiques. C'est que c'est mes parents, c'est des survivants. Donc pour eux, protéger leurs enfants, c'est tu rentres avant telle heure, quand la nuit tombe, faut que tu sois rentré. Donc on n'a pas ce même rapport-là, donc il y a une incompréhension qui se fait. Donc ouais, clairement, la notion de culture, elle est limite centrale par rapport à nos problématiques, parce qu'en en fait, si tu ne prends pas ça en considération, tu ne peux pas comprendre la personne et tu ne peux pas l'orienter correctement par rapport à ce qu'elle doit découvrir d'elle-même.
Ouais, je suis super d'accord, je veux bien rebondir, je trouve ça super intéressant. Et je crois qu'il y a même un autre truc, j'aime bien le côté un peu genre, nos parents ils sont un peu dans la survie. Moi je sais qu'à un moment j'en voulais à ma mère de pas être allée en thérapie elle-même, tu sais, elle avait plein justement de comportements, je me disais mais je comprends pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle va pas juste se faire soigner. Et en fait un jour j'ai capté, bon même si ma psy maintenant elle m'a dit oui, il est jamais trop tard pour faire une thérapie, on peut se réveiller à 70 ans et venir quand même en thérapie. Mais en fait j'ai compris un truc pour ma mère, c'est que je crois que pour elle, si elle rembobinait sa vie et qu'elle devait se poser vraiment se poser et dire il m'est arrivé ça, je crois qu'il y a un truc qui pète dans son cerveau, et je pense que rares sont les psys qui ont cette capacité aujourd'hui de récupérer un passé aussi lourd que celui de ma mère. Et j'ai compris ça vraiment tard, et justement moi j'ai choisi une psy qui est noire parce que je me suis dit si je vais voir une psy qui a un passé culturel vraiment trop différent, qui va pas savoir se mettre à la place de ma mère ou de mon vécu, elle va peut-être pas me juger visiblement, mais elle va me juger parce qu'elle comprendra pas ce que ça implique d'avoir une mère comme ma mère, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Pareil, je pense que tu vois le côté inquiétude et tout, c'est pas forcément tout le temps pour justifier les actes de nos parents, mais eux, les raisons qu'ils ont de s'inquiéter, c'est pas juste en mode ils sont parano. C'est qu'en fait, eux, ils savent ce que c'est en tant que parents noirs, maghrébins, etc., ce que c'est que de vivre en France depuis des générations. Et ils savent les conséquences et ils savent ce qui t'attend. Et ils veulent pas que tu revives des trucs qu'ils ont vécu. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, t'as des séquelles. Des comportements de tes parents que si tu sais pas, si t'as pas le même parcours culturel, tu comprendras jamais, tu ne pourras jamais te mettre à sa place. Moi je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs on manque de psy racisés, on manque de psy issus de l'immigration, on manque de psy.
Il y en a de plus en plus, hein. Parce que moi il y a 10 ans quand je me suis accompagnée, il y en a
zéro.
Pas du tout.
Mais je crois qu'il y a un chiffre qui dit que c'est 4%, je crois.
Ah ouais, 4%,
on n'est pas beaucoup.
Faut que ça évolue.
Ça commence à venir doucement.
Mais moi, je voulais bien rebondir sur un truc que vous avez dit toutes les deux, que je trouve super, super intéressant. C'est le fait d'en vouloir.
Oui. C'est
cette notion d'en vouloir, en fait, à nos parents, à nos grands-parents ou quoi. Et je suis tombée sur un réel, sur Insta, il n'y a pas longtemps, qui disait... on ne peut pas réellement leur en vouloir parce que c'est des outils qu'ils n'ont pas. Et en fait, ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais... c'est complètement réel, tu vois, c'est comme une mallette à outils et tu dis mais passe-moi le tournevis. Ouais, mais je sais pas c'est quoi un tournevis, tu vois ce que je veux dire.
J'en ai même pas d'ailleurs.
Ouais, c'est ça,
j'en ai jamais vu.
C'est quoi genre
c'est quoi ce truc?
Ouais, c'est ça. Et tu dis non mais passe-moi un tournevis en fait, parce que pour nous c'est logique parce que comme t'as dit on est des descendants d'immigrés. Donc c'est comme si on avait pris ce relais, tu vois, ils se sont sacrifiés et nous on a ce luxe, comme tu disais tout à l'heure, on a ce luxe de pouvoir y penser et du coup on peut leur en vouloir de pas nous comprendre, pas comprendre nos émotions, alors que tout simplement ils ont pas grandi dans ça en fait. Et je trouve ça super frustrant, mais quand on le comprend, bah il y a tout qui s'aligne et on n'en veut plus en fait.
Et je sais pas si vous avez fait ça, mais moi, le fait de suivre une thérapie en tant que moi-même, genre en laissant ma mère, en me disant ma mère, elle est comme elle est, je pourrais pas la changer, elle est abîmée comme elle est abîmée, elle a son vécu, mais moi, par contre, je peux encore me sauver, moi, je peux encore m'accompagner, moi, je peux encore me trouver des outils et tout. Et le simple fait que moi, je sois en thérapie, que je commence à me comprendre, que je commence à avoir des outils, ça détend sur ma mère, mais... sans qu'elle s'en rende compte en fait, juste parce que en fait des fois je disais mais c'est pas grave maman, tu sais, ah non c'est pas grave, ah bah non c'est pas, peut-être c'est pas grave. Et donc même quand je lui ai dit ouais je vais voir une psy, elle a essayé d'y aller deux fois, elle a pas réussi, c'était vraiment trop dur pour elle. Mais il y a ce truc un peu où je sens qu'en fait notre relation elle a changé parce que moi j'ai changé mon regard sur elle, moi j'ai changé ma façon de me gérer, et donc en fait par effet boule de neige ça a une répercussion sur notre relation alors que elle a rien fait,
ouais.
Tu vois, et ça j'ai trouvé ça trop beau de me dire bon je me soigne moi, puis en fait par extension ça va la soigner elle.
Ouais, c'est magnifique.
Je sais pas si ça vous avait fait un ça ou pas du tout, peut-être, je sais pas.
Bah moi clairement c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'était ça, c'est ouais. De me dire ok bon je suis l'aînée de la famille, je vais faire un travail sur moi, on me prenait un peu pour une dingue au début.
L'aînée, c'est toujours dire,
ouais, c'est un peu une dingue,
faut
un peu folle.
Ouais,
c'est ça, je dis bon, ouais, je vais aller en thérapie, je vais prendre soin de moi, on verra ce qui se passe. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est de me rendre compte que de me responsabiliser, de reprendre le pouvoir sur ma vie, de revenir au centre, de gérer mes émotions, de me comprendre, de comprendre mes parents. Moi, la première fois que j'ai compris mes parents, j'ai pleuré toute la journée.
Ah ouais. Oh là là.
Ça m'a choquée. J'ai dit, non, mais en fait, je leur en voulais, j'ai dit des choses méchantes. Et en réalité, non, c'est juste qu'eux-mêmes n'ont pas, comme tu as dit, ils n'ont pas les outils pour. Et au fur et à mesure du temps, de rester vraiment centrée avec moi, dans mon cœur, qui je suis, la côte découverte de ma mère, je me suis rendu compte que ma famille bougeait autour de moi.
C'est ouf.
Et c'était super beau parce que la première fois j'ai dit à mes parents je t'aime.
Oh, j'ai du frisson.
C'était et mon père m'a dit moi aussi je t'aime ma fille. Ah, j'ai pleuré aussi pendant 24 heures. C'était incroyable de se dire bah en fait de des fois on attend que ça vienne d'eux.
Ouais.
Mais on est des adultes et on se rend pas forcément compte du pouvoir qu'on peut avoir sur notre famille pour faire évoluer les choses. Et quand tu vois les choses qui bougent, non, sincèrement, je trouve que c'est la meilleure sensation au monde. Et même de voir, moi je suis l'aînée, on est 4 filles,
okay.
Et de voir mes sœurs, les choix qu'elles ont fait, de me dire bah ok Tonitra, merci, grâce à toi j'ai fait ça, avant je pouvais pas, je dis ah ouais c'est bon, on va continuer, on va tous aller en thérapie.
Et en soi,
c'est ça, et en soi ils ont plus forcément besoin d'aller en thérapie parce que comme ce que t'as dit, je respecte le fait que peut-être pour eux c'est trop chaud de tout faire remonter, il y a peut-être un truc qui va péter, ça sert à rien. Mais par contre de sentir qu'il y a une meilleure communication, un meilleur échange et une meilleure compréhension, et que l'amour circule mieux entre nous, que c'est plus un sujet tabou, ah ben ça fait du bien à tout le monde. Donc ouais, clairement, ça, en fait, ça, tu fais remonter en quelque sorte l'énergie de ta thérapie sur ta
famille. La transmission, en fait.
C'est exactement.
Moi, je pense que je suis toujours dans la phase d'acceptation de ce que vous dites, en fait. Le fait d'accepter qu'elle n'a pas les outils, etc. En termes d'attente, en tout cas, je pense que j'avais mis une énorme pression sur elle par rapport à mes attentes, en fait. Et je pense que je suis en phase d'essayer de me détacher de ça. Et je pense que en me détachant de ça, j'arrive à avoir de l'apaisement et j'espère plus tard pouvoir aussi lui en apporter. Et c'est encore en cours. Voilà.
Ouais, je pense vraiment chacun son rythme. Je pense qu'il y a même des gens qui vont faire 10 ans de thérapie et qui ne trouveront toujours pas cet apaisement. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment viser à ce que nous, on se soigne nous. Et au pire, même si ça n'a aucune répercussion sur eux,
c'est
au moins nous, on a des outils soi pour se protéger. Parce que des fois aussi, il y a des parents avec lesquels il ne faut même plus essayer. Il ne faut pas tout justifier toujours, tu vois. Et je me dis, au moins, tu vois, toi, tu peux te protéger toi et ça te donne des outils pour ne serait-ce que t'armer toi-même. Déjà, je trouve que c'est déjà. Beaucoup, et je pense qu'il faut rappeler aussi qu'il faut énormément de courage pour se dire je vais aller quelque part et je vais déballer ma vie à une personne que je ne connais pas. Ça peut très mal se passer, ça peut très bien se passer, et moi je pense qu'il faut pas minimiser aussi la force que c'est. Et je pense encore plus quand, justement, on disait tout à l'heure, quand on est une personne racisée, quand on porte le voile, quand on est une femme, à chaque fois, c'est des trucs en plus où on se dit, je vais être encore plus vulnérable. Qu'est-ce qui va m'arriver si je rentre dans cet endroit, tu vois? Donc je pense que le courage, c'est un truc, faut un peu s'applause pour
c'est
ça.
C'est clair.
Ouais. Je vous jure, c'est déjà, moi, quand je suis allée, j'ai pas eu le choix. Je sais pas vous comment ça s'est vraiment passé. Moi, je sais que quand je suis allée voir une psy, j'ai pas eu le choix, j'étais vraiment un peu comme tu disais, j'étais dans une impasse, j'étais en mode, bon, écoute, c'est soit j'essaye ça, soit vraiment je vais mourir, en fait. Donc c'était ça. Ou la mort. J'ai dit bon, c'est quoi le mieux? Alors, qu'est-ce que je vais faire et tout? Et donc j'y suis allée comme ça, mais ça m'a demandé, même comme ça, alors que j'avais genre la pire option et une option un peu moins difficile à côté, ça m'a demandé beaucoup de courage.
Beaucoup de courage.
Moi, c'est un vrai acte de foi envers soi-même quand on va se faire accompagner, de se dire je mérite d'aller bien, je mérite d'avoir le bonheur, donc j'y vais parce que j'ai foi en moi. Et ça, des fois, on se rend même pas compte que c'est vraiment un acte de foi. C'est pas de la faiblesse, au contraire.
Ouais, je sais pas si vous aussi, qu'est-ce qui a fragilisé votre santé mentale? Si vous avez des points spécifiques, vous vous êtes dit ok, ça, je sais que ça, aujourd'hui, c'est encore un impact sur ma santé mentale, ou je sais pas, quel genre de truc vous impacte au quotidien Ça, ça m'intéresse beaucoup.
Bah moi, par exemple, je viens de Chevillarue, du coup, dans Val-de-Marne. Mmh. J'ai fait toute ma primaire et mon collège là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, c'était une ville où il y avait très peu de minorités. Mmh. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de minorités là-bas. Ouais. Mais quand on est arrivé, il y en avait très, très peu. Et il y a deux écoles primaires. Mmh. Et moi, j'étais dans celle où il y avait vraiment, mais, vraiment que des blancs. Quoi. Il y avait mon frère et moi, mon grand frère et moi. On était les seuls noirs pendant un certain temps, il me semble. Ou je crois qu'on était peut-être 5 au total. Okay. Là, on était très, très peu.
Vous, côté sur le doigt d'une main, c'est
oui, voilà.
Pas beaucoup.
Ouais. Exactement. Et je sais que j'ai subi beaucoup de harcèlement de la part des élèves et même des professeurs.
Ah,
et ça c'est quelque chose
ouais. Aussi.
Les professeurs aussi, je sais qu'on m'a fait des insultes racistes et que le prof s'est moqué de moi par la suite
devant tout le monde.
Ouais, devant tout le monde.
Oui, yes. Super.
Ce genre de choses, vraiment ce genre de choses, dans le sens ça arrivait de différentes manières à plusieurs reprises et c'est quelque chose qui m'a très largement traumatisée, je pense. Donc il a fallu avec le temps que je je pense que c'est une des choses qu'il a fallu que sur lesquelles j'ai dû travailler, on va dire, mais c'était super dur parce que je sais pas si vous aussi ça vous a fait ça, mais en fait il y a l'impression qu'en fait on est comme une statue, on va dire, et genre on ressent rien. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais si on m'avait demandé il y a.
C'est un symptôme.
Ouais, voilà. Si on m'avait demandé il y a 5 ans, est-ce que tu penses que le racisme te touche ? Enfin, j'aurais pas nécessairement été aussi active dans le fait de dire oui que maintenant. Mais ça m'a pris du temps
déni.
Pour même. Voilà, un peu de déni. Mais il m'a fallu du temps pour même. Enfin, j'en avais conscience, mais pas de l'impact, on va dire.
Mm-hmm. D'où l'importance, par exemple, de voir une psy qui connaît tes problématiques.
Exactement.
Et qui les a peut-être étudiées même.
Ouais, ouais.
Parce que justement, si t'arrives avec ça et qu'on te le minimise, c'est double traumatisme.
Mm-hmm. Clairement.
Super ambiance.
Ouais.
Moi, je voulais juste, encore une fois, vite fait, revenir sur une phrase que t'as dite. Ouais, t'avais parlé de déni.
Ouais.
Mais en fait, je trouve ça vraiment fou parce que j'ai ressenti exactement la même chose, mais du coup, avec mon origine. Et en fait, il y a tout ce processus de conscientisation qui s'est passé durant mon adolescence. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans. Mais ouais, tu sais, il y a tout ce truc de conscientisation de... Ok, alors, la santé mentale, ça existe. Les émotions, ça existe. Qu'est-ce que je suis? Comment je ressens les trucs et tout? Après, j'ai compris que j'étais hypersensible. Alors là, c'était l'explosion dans ma tête. Parce que je me suis dit, ok, alors il s'est passé ça. Et du coup, c'est... décuplé dans ma tête et ouais, c'est comme si en fait j'avais tous les traumas de mon enfance, tout ce qui s'est passé à l'école, tout ce qui a pu se passer dans ma famille et tout qui a ressurgi genre à la fin de mon adolescence et je me suis dit ah ok, en fait j'ai vécu ça. Donc je comprends pourquoi je réagis comme ça, je comprends ma peur de l'abandon, je comprends plein de choses.
Ouais.
Et je suis complètement d'accord avec
mais
ce que tu
le dis. Déni, c'est de la survie. Hein.
Mmh. C'est vrai.
Mmh. Ah ouais, le déni, c'est de la survie parce que c'est des trucs en fait, si à l'instant T, tu sais que tu peux pas les gérer.
Mmh. Ouais.
Donc ton cerveau, il se met en mode survie et il est en mode j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je verrai ça plus tard.
Ouais, ouais.
Et il se rallume quand ça y est, t'es prête à les encaisser. Et du coup, pour toi, c'est si t'as eu des trucs particuliers qui ont fragilisé ta santé mentale ou quoi que ce soit ?
Alors moi, c'était vraiment le syndrome de la femme forte.
Ok,
parce c'est un vrai sujet parce qu'en plus j'en parle depuis 2021, je fatigue les gens avec ça, on me dit non mais Kionitra t'abuses, c'est hyper glamour d'être une femme forte et tout, je dis ok, on en reparlera plus tard, tu vas te rendre compte que ça bouge ta santé mentale.
Ouais.
En fait moi ça a eu un vrai impact pour moi parce que j'ai grandi en cité, l'aînée de 4 filles, mon père il voulait absolument un garçon, donc moi il m'a dit clairement ma fille, il faut que tu sois l'équivalent de 10 mecs.
Oh la vache.
Voilà.
Okay. Donc il te l'a dit cash.
Ah il m'a dit oui, il dit
t'as pas besoin de te le dire.
Tu dois valoir 10 bonhommes.
Ah, oh la vache. Okay,
voilà,
d'accord.
Donc ça veut dire tu ne pleures pas, tu ne montres pas tes sentiments, tu dois avancer, tu dois réussir. T'es obligé de réussir. Tu dois ouvrir la voie de cette manière-là et pas autrement. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi, j'ai vécu ça en me disant, mais en fait, j'ai pas de vie. J'ai pas le choix. En fait, j'ai une vie de merde. Clairement, c'est ce que je me suis dit en grandissant. Et quand j'étais majeure, je me dis, mais en fait, ça va être quoi ta vie d'être obligée de faire comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on t'a dit ça. Et si tu fais pas ça comme ça, ça veut dire qu'on va te rejeter ou quoi que ce soit. Mais voilà, je suis une femme et je vois les femmes de ma famille qui sont hyper fortes, qui tiennent hyper bien la maison. Donc, je dois être comme elles. Donc, en fait, ça te met une pression qui est juste...
La performance.
Ouais. Et t'es comme ça tout le temps. Et t'arrives à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, tu veux peut-être faire ta vie. Tu te dis, mais en fait, tu me sers à rien parce que je vois 10 bonhommes par rapport à toi. Et là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Tu te dis, c'est pas normal.
Ouais.
C'est pas normal de penser ça, de dire en fait tu me sers à rien. Si tu me sers pour partager des moments, mais à ce moment-là de ma vie j'avais pas cette vision là. Donc j'ai divorcé, Okay. J'ai eu des problèmes de santé en lien avec ça parce que je gérais pas du tout mes émotions. J'ai fini à l'hôpital, j'ai failli faire un arrêt cardiaque.
Oh, la vache.
Le syndrome de la femme forte a failli me tuer, clairement. Et le médecin m'a dit, écoutez, vous avez aucun problème au niveau du cœur, vous avez une colère en vous, je sais pas ce que vous avez. Mais il faut lâcher. Voilà, elle a dit, il faut lâcher. Et la première fois que j'allais voir une thérapeute, bon, j'ai pas pu m'ouvrir parce qu'elle me comprenait pas, mais une autre thérapeute, ah, j'étais énervée. Elle a dit, ouais, ouais, vous êtes en colère, hein, y a beaucoup de colère qui sort de... Et là, je me suis dit, il y a un vrai sujet. Donc ça, ça m'a permis de prendre conscience que, déjà, on a tout ce syndrome-là d'une manière comme d'une autre, ça se traduit pas de la même façon. Mais qu'en fait, toute notre vie, ça vient un peu toquer à notre porte. Des fois, tu as une situation, moi je le sais, même aujourd'hui, hein, je me disais, oh, ben là, cette personne, elle m'a déçue, donc je me referme sûrement. Et je fais, ah là, mon Kyonitra, là, c'est ça, non, mais par contre, recentre-toi, émotion, tac, tic, tac. Mais on se rend pas compte de ça, et moi je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément bouffée. Et quand je me suis recentrée en travaillant là-dessus, je me suis dit, mais c'est bizarre, personne n'en parle.
Ouais.
Je vois des Wonder Woman, je vois, faut être une Amazon, je vois, faut que tu sois une thug en cité, je vois si je vois ça, mais j'ai vu personne qui parlait de ça, donc j'ai dit bon, je vais en parler, on verra ce qui se passe. Et là je vois, ah mais moi aussi je me sens concernée, ah mais moi aussi je me sens concernée, mais j'avais honte d'en parler. Et en fait il y a une vraie honte autour de ce syndrome là parce qu'on se dit, en fait si je dis que juste je suis fatiguée de tout porter, genre je suis épuisée, bah, on va me juger parce que je suis pas une bonne femme, une bonne mère ou autre.
Et t'as l'impression que vu que tout est sur tes épaules, si toi tu t'écroules, tout s'écroule.
Tout s'écroule.
C'est comme un peu les mères célibataires, je trouve qu'elles ont un peu ce truc-là aussi, tu sais, genre les mamans qui sont célibataires, elles font la mère, le père, la sœur, le frère, elles ont tout en même temps, donc en fait elles retiennent tout parce qu'elles ont l'impression que si à un moment elles lâchent, t'as l'impression que tout le monde va lâcher. Et je comprends 100%. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas. Je pense qu'on n'en parle pas assez, ouais. Moi je suis un peu émue, genre. Et j'ai trop compris ton truc de la colère parce que moi, genre, pendant longtemps, j'avais ce truc de façade de au lieu de pleurer, je m'énerve. Et depuis que je suis petite, j'ai ce truc. Et pourtant, personne ne me l'a mis dans la tête. Je pense que c'était un truc que je me suis un peu. Je me suis rentrée par réflexe, par protection, de truc de me dire, mais si je pleure, après je suis faible, après on va me manger. Si je bouffe pas les autres ou si je m'énerve pas, on va me bouffer. Donc moi, il faut que je sois forte. La vie, on m'a toujours dit, elle va être plus dure pour toi, faut que tu travailles plus que les autres, faut que tu fasses deux fois plus. Nanana. C'est rentré dans ma tête, je me suis dit. Moi, je peux pas être triste, je dois être en colère. Donc, à chaque fois que j'étais triste, je me mettais en crise de nerfs.
Ouais.
À chaque fois que j'étais malheureuse, ben, je devenais irritable. Et j'avais ce truc comme ça de. Moi, la colère, elle sortait naturellement. Et même aujourd'hui encore, comme tu dis là, comme t'as dit, il y a des moments où je suis énervée et je dois me poser, réaliser que je suis pas énervée en fait. Je suis pas du tout énervée. Je suis carrément triste. Aucun rapport. Mais pourtant, la colère, elle monte vraiment comme si on m'avait mis en colère, tu vois. Et je dois prendre 5 minutes sur moi et me dire « Ah ouais, en fait, je suis pas énervée du tout, je suis triste. » Et là, je pleure. Et c'est pour ça que quand t'as dit ça, j'ai dit « Oh, c'est tellement mon cerveau, il est branché comme le tien. »
T'inquiète, t'es pas seule.
Je pense qu'on est beaucoup à pas le savoir aussi. Moi, j'ai mis du temps à capter, hein, franchement.
Un constat que j'ai fait, c'est que à chaque fois que, bah, là, par exemple, on est que des femmes, à chaque fois que je vais à un événement, à une marche, à une table, à tous les événements où je suis allée, on était très majoritairement des femmes, en fait.
Ouais.
Et c'est quelque chose que je peux pas m'empêcher de constater. C'est vraiment, enfin, on a vraiment cette responsabilité à porter sur nous, même quand on pense au parcours de la santé mentale pour une femme et pour un homme. J'ai l'impression que les hommes, ils ont cette liberté en fait d'exploser, de faire absolument n'importe quoi. Et après, ils peuvent rentrer, ils sont même honorés parce que c'est un homme qui a réussi à se reprendre, à redevenir droit. Mais une femme en fait qui dit qu'elle est allée voir un psy ou autre par la société, bah, c'est un peu une folle. Il y a le truc de l'hystérie.
L'hystérique, ouais.
Ouais. Donc on a une pression qu'on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en fait on nous fait bien comprendre que ben voilà, l'homme il sera dehors, il fera ses erreurs et puis nous on doit rester ici pour tenir en fait toute la communauté. Du coup tu vas au centre social, c'est des femmes. Tu vas voir les éducateurs, c'est des femmes. Tu vas peu importe où en fait,
même les aides-soignantes, même dans le
exactement. Donc je pense que je me reconnais totalement dans ça et je le vois partout. Et c'est vrai que j'ai pas encore trouvé pour moi personnellement de solution à ça. Mais je pense qu'il faut que ça change, quoi. C'est pas normal du tout. Enfin, il y a un message qui est envoyé, je me dis, quand on va à un événement pour l'inclusivité, pour nous protéger, pour créer un safe space et qu'il n'y a que des femmes, tu te dis, enfin, quel message ça envoie, en fait, tous sont les hommes, du coup, qu'est-ce que vous en avez rien à faire. Enfin, voilà.
En vrai, je pense que c'est pas qu'ils en ont rien à faire, c'est que déjà, nous, en tant que femmes, on s'autorise pas à être dans nos émotions. Mm-hmm. Et aussi, la société de l'homme leur a demandé d'être oui. que dans le matériel. C'est et vrai. En fait, pour eux, dans leur inconscient, en fait, on a des problématiques qui sont différentes. Mm. Eux, pour eux, c'est si je ramène l'oseille à la maison, mm. je suis un bonhomme.
Ouais.
Nous, c'est si on est capable de tout porter émotionnellement, on est des bonnes femmes. Mm. Donc, c'est pas qu'ils se sentent pas concernés, c'est que déjà, ils voient des femmes qui sont. On est tellement fortes et on montre aucune émotion. Comment, en tant qu'homme, tu veux t'ouvrir?
Non, je suis d'accord.
À une femme qui est thug, entre guillemets. Mmh. Franchement, c'est impossible.
En fait, je pense que ça, c'est vraiment un problème beaucoup dans les quartiers populaires aussi. Je pense qu'on ouais. est tellement. On est tellement dur, on apprend tellement à être ouais. dur, on est tellement prêt à recevoir des coups de la vie que, genre, on devient tous des briques.
Des cailloux.
C'est grave, on est
tous des
briques.
Tout ça, je dis, j'ai pas mal.
Et en fait, du coup, effectivement, ouais, je pense que ça, les hommes, ça peut être encore pire. Tu vois, c'est comme quand tu disais, ouais, moi, on m'a dit très tôt, très jeune, en tant qu'aîné, il faut que je valide 10 hommes. Si t'avais été le garçon de la famille, on t'aurait rentré le même discours. Mais avec d'autres mots, mais le discours, et t'aurais dû de nouveau faire ce travail aussi sur toi-même, mais d'un autre angle. Donc je me dis, si toi on t'a dit par exemple ça en tant que femme, en tant que sœur aînée, j'imagine pas aussi le nombre de trucs qu'on dit aux garçons, et du coup après va débrancher le logiciel,
c'est ça,
10 ans, 15 ans après, en leur disant en fait tout ce qu'on t'a appris c'était pas nécessaire, t'as droit d'être doux, t'as droit de prendre ton temps, t'as droit de pleurer, t'as droit d'être triste, t'as droit de te ramasser, t'as droit de, tu vois, t'as droit de tout, enfin t'as droit d'être vulnérable, genre ouais. c'est dur hein, le logiciel il est, tu vois, comme t'as
eu du temps,
il est bien tchac, il est formaté, et eux ils doivent avoir la même impression, ils doivent se dire aussi, attends, mais si moi je suis plus dur, si moi je pleure, on est foutu.
Tu vois, c'est ça le truc.
Tu vois, et comme je pense là pour le coup pour la classe sociale, les femmes aussi, nous aussi, on est endurci aussi. Du coup, c'est la compétition qui va le moins pleurer, qui va être le plus vénère, qui va être le plus dur, qui va encaisser le plus de choses aussi, tu vois.
Donc au final, quand nous on s'autorise à aller dans nos émotions, on peut ouvrir des espaces pour que les hommes puissent mieux s'ouvrir.
Est-ce que, enfin, moi par exemple, pour ma part, je sais qu'il y a plein de moments où ma santé mentale, elle a été mise en péril, pas à cause des gens, pas à cause de, je sais pas, de mes interactions sociales, mais juste à cause de l'argent. Genre, je vais donner un exemple, genre, si tu galères à payer tes factures, si tu galères à partir en vacances, si tu galères à te payer les choses dont t'as besoin, si tu te sens toujours en décalage avec les autres parce que toi t'as pas ci, parce que toi t'as pas ça, parce que toi t'aimerais bien aller là, que t'aimerais pas aller là, ou alors tout simplement que, je sais pas, t'as envie de partir en vacances et tu peux pas parce que, bah non, attends, j'ai ça à payer, j'ai ma voiture, j'ai mon truc, j'ai mon machin. Est-ce que vous, il y a des moments où vous êtes dit, en fait, là je pourrais être heureuse? Vraiment, je pourrais être heureuse si juste j'avais de l'argent. C'est-à-dire que oui, les problèmes, oui, la famille, etc. Mais là, vraiment, il suffirait que je gagne tant par mois ou que j'ai telle somme qui tombe et en fait, la plupart de mes problèmes, ils disparaîtraient. Que ce soit quand on est petit ou quand on est aujourd'hui adulte ou quand on est ado. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit ça?
Bah, clairement, ouais. Clairement, c'est vrai que moi, il y avait un truc que j'avais constaté, c'est qu'il arrive un moment où en fait ton rapport à l'argent, c'est pas une question de pouvoir s'acheter des vêtements ou autre, c'est vraiment une question de dignité en fait. Quand quelqu'un peut plus s'acheter de serviettes hygiéniques, de coton-tige, de déodorant, ce genre de choses, là on est sur un autre. J'ai même plus mes besoins primaires en fait, j'ai même plus accès à mes besoins primaires, donc dans ces moments-là, c'est sûr que. En fait, c'est vraiment dur de. Parce que je trouve que même le rapport à la santé mentale, enfin. Il faut pouvoir aussi prendre soin de soi-même, on va dire, entre guillemets, si j'ai même pas de crème pour m'hydrater le corps, en fait, bah, j'ai l'impression, enfin moi, personnellement, c'est vrai que ça donne l'impression d'être un peu une moins que rien, entre guillemets, dans le sens où je peux même pas pour moi-même.
Ça touche à l'estime, quoi.
Ouais, voilà, ça touche à l'estime, vivre en fait dignement et avoir ce dont j'ai vraiment besoin, genre pas de chaussures, pas de boucles d'oreilles, pas de, je parle vraiment de trucs primaires. Donc c'est vrai que, ouais, ça joue vraiment pour ma part.
Okay. Alors, moi à l'époque, oui, je t'aurais dit oui, mais en fait, aujourd'hui, je te dirais. Non, parce que déjà, ça veut dire que on part du principe qu'il faut obligatoirement aller voir un thérapeute pour être heureux ou pouvoir se comprendre, alors qu'en réalité, on a tout en nous. Mm-hmm. Donc moi, à l'époque, je me disais, ouais, si j'ai pas d'argent, je pourrais pas être heureux, je pourrais pas être épanouie. Comme si, encore une fois, je redonnais la responsabilité de mon bien-être à encore une énième personne qui était la thérapeute. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais prête à mettre des sous. J'économisais, j'allais la voir, mais je me dis, mais en fait, la réalité, c'est que je suis pas autonome. Mm-hmm. Et moi, je n'aime pas ne pas être autonome. Je veux me comprendre. Et je me suis rendu compte qu'on nous accompagnait pas, même en thérapie dite classique, à donner des outils pour qu'on puisse être autonome. Sauf qu'en réalité, quand tu fais ce premier travail sur tes blessures qui te permettent de te découvrir, en tout cas de libérer la première porte où tu te dis « Ah ouais, ma vie, c'est un peu la merde quand même. » Là, tu te redécouvres, mais on se découvre toute notre vie. Donc la réalité, c'est que si on doit juste aller voir un thérapeute à chaque fois qu'on se sent pas trop bien, on va y aller toute notre vie, on va y aller toutes les semaines, hein, parce qu'il y a des, il se passe des choses, notre vie c'est Netflix, hein, tous les jours il y a un truc. Tous les jours il y a un truc. Donc c'est ça aussi, moi, que j'ai voulu remettre au centre de mes accompagnements, c'est de dire aux gens, moi je suis pas là pour vous tenir la main, je suis pas votre sauveuse. On a tous la capacité de pouvoir se reprendre en main, avancer, et on a des ressources à l'intérieur de nous maintenant, il faut juste avoir le bon chemin, le bon plan pour y arriver, y ressortir avec les solutions et les réponses qu'on veut avoir. Donc oui, au début, parce que pour se faire accompagner, je pense une première fois, c'est un coût. Moi, je t'ai dit, j'ai mis un an pour pouvoir économiser, mais j'étais hyper contente de le faire. Mais par la suite, je me suis responsabilisée en me disant, ok, bah, que Nitra, enfin, et à quelle optique existe, bah, je me suis rendu compte que l'art, ce que je te disais au début, je l'ai utilisé naturellement toute ma jeunesse pour gérer mes émotions, mais je ne l'avais pas fait en conscience. Donc je me suis rendu compte que j'avais toujours eu un outil qui était là. Et j'ai remis juste la conscience dans danser en conscience, écouter de la musique en conscience pour pleurer, être
c'est
bien.
Gratuit.
Mais oui, c'est gratuit, il faut en profiter. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte.
C'est gratuit.
On se rend pas compte qu'on a déjà des choses autour de nous qui sont gratuites. Écrire.
Ouais.
Pourquoi est-ce que les artistes, beaucoup en quartier, on n'a pas forcément abordé du rapport de l'art avec les quartiers et la santé mentale. Ça, c'est gratuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a autant d'artistes, s'il y a autant de textes aussi puissants et percutants, c'est que notre thérapie, c'est l'art. Et c'est gratuit. Quand tu conscientises ça, tu dis, ok, bon, j'ai fait un travail sur moi, j'ai vu quelqu'un, c'était génial. Maintenant, comment je fais pour être autonome? Qu'est-ce que j'ai à disposition? Je vous conseille d'aller voir des thérapeutes qui sont capables de donner des outils déjà pour que vous soyez autonome, parce que c'est le but. Et de vous rendre compte que déjà, par vous-même, il y a des choses qui vous faisaient du bien. Des fois, ça peut être marcher, aller faire du sport, danser, comme je dis, écrire, faire de la musique. On a plein de choses autour de nous qui nous permettent, avec 0 euro, de prendre soin de nous. Ou en tout cas, de libérer, de poser des mots sur nos mots. Et après, quand ça devient compliqué, on peut aller voir quelqu'un pour retravailler sur une nouvelle porte qui se présente à nous, qui est compliquée à ouvrir. Mais je pense que la notion d'argent, elle est là, elle est importante au début. Et par la suite, c'est de se dire, mais avec quel outil je peux avancer pour toujours reprendre mon pouvoir, être au centre, et pas me dire que mon thérapeute, c'est ma seconde petite maman, ou mon second petit papa qui va me tenir la main, qui va me sauver. Enfin, moi, c'est ma vision, en tout cas.
Pour ce qui est des questions d'argent, c'est vrai que je me suis déjà retrouvée dans des situations où je me disais, bon, j'ai 100 problèmes, mais avoir 100 balles m'en enleverait 99, tu vois. J'étais dans ce truc de, ah ouais, mais en fait, ce problème-là, il y a l'argent, ce problème-là, il y a l'argent, mais là, si j'avais un peu d'argent, bah, j'aurais pas ce problème-là, tu vois.
Ouais.
Et je me disais, mais je veux des sous, tu vois. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais cet amour excessif que ont souvent les gens qui viennent de quartier pour l'argent.
Oui.
C'est un truc qui fait que, bah, comme on a souffert, et ben on se dit directement le bonheur c'est l'argent, et donc ça rentre dans notre conscience, et on se dit que, bah, comme tu disais tout à l'heure, mon bonheur c'est l'argent, mon bonheur c'est que les thérapeutes, mon bonheur c'est les autres, et en fait c'est pas moi, tu vois. Et il y a tout ce truc de se responsabiliser, se dire non mais ok, là si je ressens ça comme ça, c'est parce que je suis comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois je le prenne mieux, tu vois, d'une meilleure façon. Ouais, je dirais ça pour l'argent. Et juste pour rebondir sur ce que t'as dit, que notre thérapie, c'est l'art, je trouve ça beau.
Ouais.
C'est archi beau. Parce que ça me rappelle plein de choses, en fait. Plein d'artistes, quand t'as dit ça, j'ai plein de noms d'artistes en tête. Tu vois, je pense à des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses, danseurs, danseuses, des sportifs de haut niveau, des pianistes, des dessinateurs, plein de choses. Et je trouve ça vraiment beau parce que...
L'or entre les mains, quand même.
C'est ça, genre, il avait de l'or entre les mains. Je sais plus c'est quelle musique qui dit ça. C'est une trend TikTok. Et en gros, ouais, je trouve ça magnifique. Parce qu'on est souvent mis de côté, donc que ce soit par notre famille, parce qu'ils n'ont pas les outils, soit par des psychologues qui ne vont pas nous comprendre. Donc on est à l'arrêt, on est sur le côté, on est marginalisé, et on se dit qu'est-ce qui nous reste ? Bah, l'art, en fait, finalement. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de maisons de quartier populaires qui proposent des activités. Moi je sais, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est le piano. J'avais un conservatoire, ils offraient des petits cours de piano comme ça, de découverte, et j'ai découvert le piano et je tombais amoureuse, en fait, de ce domaine là c'est incroyable. Et je me rendais même pas compte, comme tu disais, mais je pianotais comme ça sur le clavier, j'apprenais des sons, ça peut être de la pop, du classique, tout. Et je reproduisais même des sons de rap et tout, genre du jams, tout ça, je faisais au piano.
Oh là là.
Et je me disais, mais en fait, c'est une thérapie. Et quand je faisais pas de piano pendant genre un mois, deux mois, parce que bah, j'avais pas de piano chez moi, vu que ça coûte très cher, ouais. Je me disais, mais ça me manque, tu vois. Mmh. Et quand j'ai recommencé à pianoter il y a pas longtemps, je me disais, ok, c'est ma thérapie. Vraiment, l'art, c'est ce qui nous fait du bien.
Mais clairement, et puis même sur le plan culturel, quand on se rend compte des racines africaines, par exemple, l'art, le chant, la danse, c'est pas juste une animation, c'est thérapeutique, ça a un vrai sens thérapeutique. Donc quand on se rend compte qu'on parle du transgénérationnel, dans notre transgénérationnel, cette manière de nous guérir, c'est par le chant, la danse, en fait il faut aussi accepter que c'est une de nos ressources et qu'on peut l'explorer, l'exploiter pour notre bien-être. Et encore une fois, c'est gratuit, c'est naturel pour nous. Après, c'est intéressant de poser des mots sur nos mots avec une personne qui va peut-être nous comprendre. Mais moi, je vous avoue, une psy classique, parler pendant une heure et gratter, ça ne m'intéressait pas. Je ne peux pas que tu ailles me faire aller voir mon inconscient avec, avec de l'hypnose et je trouve mes propres réponses par moi-même parce que j'ai l'impression d'être encore une fois responsable. Donc franchement, on a des vraies ressources, il faut juste s'en rendre compte et concentrer de se dire, ah ouais, bah c'est vrai, moi c'est la musique.
C'est réel. Mais bon, l'argent quand même c'est bien, mais...
Voilà, il faut doser.
Non, parce que je sais que moi, par exemple, genre, il y a... Enfin, je sais pas comment les jeunes ils voient ça, mais genre, je sais que Booba, par exemple, c'est vraiment genre... Le rappeur qui dit tout le temps, genre, moi je voulais de l'argent pour être libre. En mode, l'argent, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est ce que ça veut dire dans la liberté, tu vois. Même si moi je pense avec le recul qu'avoir beaucoup d'argent, c'est aussi être piégé. Genre, quand t'as beaucoup d'argent, t'as aussi beaucoup de responsabilités. Mais moi je sais que longtemps j'ai vraiment grandi avec ce truc de tant que j'ai pas d'argent, je serai considérée comme une moins que rien dans la société. Et tant que j'ai pas d'argent, je pourrais rien faire. Même si je suis heureuse, au pire, je vais faire quoi avec mon bonheur? Je vais le mettre où? Je vais l'emmener où, tu vois? Et moi, je partais très peu en vacances quand j'étais petite, donc j'avais un peu ce truc de ah, moi, si je pouvais partir en vacances, ah, et moi, j'avais vraiment ce truc un peu envieuse, tu vois, des autres, vraiment en mode. Puis après, j'ai réalisé aussi que même les riches, ils sont malheureux comme pas permis, et je me suis dit, bon. Moi, j'ai vraiment l'argent que j'ai besoin, mais je vais pas aller trop loin parce que visiblement, tu vois, c'est comme là, il y a Attic qui a sorti un album. Il a dit depuis que je suis riche, je me suicider. Genre, clairement, il a dit ça comme ça. Il a fait une interview chez Mehdi Maizi et il expliquait qu'en gros, il a jamais été aussi malheureux que depuis qu'il était connu et riche. Et ça, c'est comme James aussi, qui était à l'apogée de sa vie. Plus riche, tu pouvais pas, plus connu, tu pouvais pas. Et en fait, elle arrive au pic où elle était au maximum. Mais elle est au maximum de son désespoir et elle a tout arrêté. Elle a dit, allez, c'est bon, j'ai assez d'argent, je veux pas plus, je vais aller me recentrer sur moi, sur ma foi, je vais être posée dans mon anonymat, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai suffisamment prouvé et c'est bon, tu vois. Donc je pense que moi je suis encore un peu dans ce truc entre deux, entre le moi aussi je mérite de l'argent, pourquoi moi je suis toujours là, pourquoi je suis pas riche, et en même temps ce truc de en vrai de vrai, je pense que si demain tu me donnes tout l'argent du monde, je crois que je le redistribuerai en vrai, je suis un peu poète.
Ouais, c'est une artiste,
n'est-ce pas?
Après, je pense qu'on fait beaucoup un lien entre bonheur et argent, et c'est ça qui nous perd. C'est que des fois, on se rend compte qu'on a tout l'argent.
C'est un outil, en fait, l'argent.
C'est ça, on prend ça comme un jeu, de se dire, ok, en fait, je ne vais pas être ultra heureuse en étant millionnaire, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont hyper riches et qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux, donc ils sont déconnectés. Donc ça montre qu'il n'y a aucun lien direct. Mais de se dire, en fait, l'argent, je peux jouer, entre guillemets, avec l'argent pour aller m'offrir ce que je souhaite, me faire plaisir. Point.
Ouais, t'en sers, mais pas en avoir.
Voilà, et pas se dire, ça va être trop pour moi. Bah, t'inquiète pas, le jour où tu vas être bien, t'auras les gens autour de toi qui vont t'accompagner, t'inquiète pas.
Il y a ce truc de quand t'as trop d'argent, après tu perds tes proches, tu perds des amis, on te fait des coups dans le dos. Ouais, mais c'est aussi vrai, tu vois.
C'est vrai.
Je sais que, maintenant, j'ai un peu désacralisé la notion de la richesse. Je parle de l'extrême richesse, hein. T'as un peu d'argent, t'es à l'aise, hein. Je parle vraiment de l'extrême richesse. Moi, je sais que quand j'étais petite, vraiment, j'étais en mode, mais moi, en gros, soit faut que je devienne une star, soit faut que je sois riche. Genre vraiment, quand j'étais petite, je me disais, mais là, en fait, j'ouvrais mes volets, j'ouvrais mes fenêtres, je regardais mon immeuble là, mes briques là, je pouvais plus me les voir. Genre il y avait 15 bâtiments, c'était tous les mêmes, et je me disais, mais en fait, moi là, je connais qui est sorti de cette situation, qui est sorti de ce contexte de vie autrement que soit bon par la délinquance, et encore que bon, ils ont pas fini très bien, soit en étant célèbre et riche, tu vois. Et donc moi, je sais que je me suis construite pendant longtemps comme ça avec ce truc de bah, si je veux être confortable, si je veux plus avoir mes problèmes, il faut que je devienne riche, il faut que j'atteigne un certain niveau d'argent si je veux vraiment partir, parce que je connais pas d'entre-deux. Moi, je connais que des gens qui sont là depuis 40 ans, soit des gens qui ont explosé et qui viennent même pas de mon quartier. Je sais juste qu'ils viennent d'un quartier quelque part, tu vois. Donc je sais que j'avais un peu cette recherche du bonheur pendant longtemps, de par ce biais-là, de soit je suis riche et je suis heureuse, soit je suis là et je suis malheureuse, tu vois. Donc après, c'est un peu caricatural, alors j'étais petite. C'est pour ça que je dis maintenant, j'essaye de me créer une nouvelle vision en fait du bonheur, une nouvelle vision de la paix, tu vois.
Ouais.
Alors qu'avant, j'avais pas cette vision de la paix. Pour moi, c'était je suis Shime ou je vais jamais m'en sortir. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Vu c'était les époques Star Academy.
Ouais, c'est ça. Tu vois, tu te disais, je vais faire un télécrochet.
Tu voulais t'inscrire.
Ouais, moi je voulais m'inscrire. Je voulais que danseuse ou chanteuse, parce que je me disais, les études c'est mort. Vu d'où je pars, je vais jamais réussir à faire des études. Je sais très bien que c'est impossible. J'avais ce truc-là. Et en fait, chanteuse, il n'y a pas besoin de diplôme. On ne te demande pas d'où tu viens. Tu danses bien, tu chantes bien. Et bah, c'est bon, t'es une star.
Du coup, juste les filles, j'avais une dernière question pour clôturer tout ça. Tu parlais de Hatik qui avait connu l'extrême richesse et qui maintenant a des idées suicidaires, enfin comme il l'a dit dans son son. Vous pensez quoi, vous, du rapport à la dépression dans les quartiers populaires? Parce que je sais que c'est... Est-ce que c'est tabou? Moi, je pense que c'est tabou, mais je vais pas répondre. Je vous laisse répondre d'abord dans un premier temps. Ouais, est-ce que c'est tabou? Quel est ce rapport que vous avez? Et voilà.
Dans nos cultures et dans nos religions, il y a une diabolisation en fait des pathologies. Je pense qu'on ignore le fait qu'il y a une logique dans... en fait, là, on va dire que c'est une réaction à notre environnement. Enfin, grandir dans une cité, ça peut être extrêmement violent. Moi, je sais que ça a été violent pour ma part. Et voilà, il y a ce truc de déni, en fait, de nous nier le droit d'avoir mal et d'être en difficulté, d'être malade, en fait. On nous nie le fait d'être malade et je trouve qu'on nous donne encore plus de responsabilités. Comme t'es malade, en fait, prie plus. Et comme t'es malade, va faire le ménage. Et comme t'es malade, réveille-toi plus tôt et va faire du sport. Et va faire ci, va faire ça. Pour en fait, je pense que ça, c'est vraiment une peur des gens qui projettent sur nous-mêmes, en fait. Comme ils comprennent pas l'émotion, ils comprennent pas la maladie, c'est hors de leur portée. Ils essaient un peu de contrôler le truc pour nous, pour plus avoir, en fait, à être témoin de ce mal-être. Mais enfin, c'est... Je veux pas être dans l'exagération, mais pour moi, je trouve ça même meurtrier, en fait, parce qu'on enlève à quelqu'un le droit de guérir et on lui nie, en fait, sa maladie. Et je pense que ça empire les choses et les gens, les gens se suicident, les gens font des crises de nerfs et il faut qu'on reconnaisse, en fait, ces pathologies. Il faut qu'on ait de la compassion les uns pour les autres, en fait, pour moi.
Vraiment, c'est vrai tout ça. Non, c'est hyper puissant ce que tu viens de dire. Mais alors pour moi, c'est vraiment tabou. Ouais. La dépression est tabou dans les quartiers, c'est clair et net, pour deux choses. Premièrement, ça remet en question, encore une fois, la notion de je suis fort, pas forte. Donc c'est si je montre aux gens que je vais pas bien et que je suis en dépression, et en plus que je dis le mot dépression, on va dire c'est bon, t'es une fragile, laisse tomber. Et il y a un deuxième point qui en plus est en lien énormément avec la religion, c'est la notion de gratitude. Donc ça veut dire que si je dis que je suis en dépression, ça signifie que je suis ingrate par rapport au fait d'être en vie, de pouvoir manger, de pouvoir dormir. Donc encore une fois, ça remet en question mes émotions, mes besoins et qui je suis. Et ce que je dis aux gens qui sont issus des quartiers, je leur dis, le mot dépression comme ça, il fait peur. Mais plutôt que de voir la définition très médicale, thérapeutique, dites-vous, dépression, c'est mon besoin de relâcher la pression. Il y a des différents stades. Donc quand tu te dis, c'est mon besoin de relâcher la pression, déjà tout de suite, ok, bon, je suis pas folle, je suis pas fou, il y a un sujet, et c'est vrai que je me rends compte que j'ai beaucoup de pression, j'ai ça, ça, ça dans ma vie, et on en revient à se recentrer sur soi, ses besoins, plutôt que d'être focus sur le regard des gens. Donc oui, il y a un tabou qui est clair et net, et on en revient encore une fois à l'art, où en fait les outils qu'on a eus naturellement pour pouvoir relâcher la pression, c'était avec l'art. Parce qu'on peut parler sans être considéré comme faible, parce qu'on se dit, j'ai lâché un texte avec des punchlines, c'était un truc de dingue. Mais non, mais dans le fond, c'était vraiment ma thérapie. Là, j'ai vraiment relâché toute la pression que j'avais à l'intérieur de moi. C'est un fait. Pareil pour la danse, pareil pour la peinture, l'art avec un grand A. En fait, c'est les ressources qu'on s'est offertes pour pouvoir relâcher notre pression à notre manière. Ça ne fait pas tout, mais c'était en tout cas notre manière de compenser pour avancer et rester debout.
Oui. C'est... Franchement, vous avez... Elles ont tout dit.
Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Moi, c'est j'ai rien. Moi, j'aurais envie de dire bravo. Bravo d'exister, voilà.
Merci de dire.
Vraiment.
Non, vous avez dit les termes.
Les termes,
Vous avez parlé French. Et moi, je rejoins vos deux discours. sur le fait que la dépression, d'une part, c'est tabou. Le mot fait peur, le mot ne doit pas être dit, le mot est secret. Si tu le dis, t'es la risée, t'es un faible, t'es une faible. Alors, je parle même pas de la différence homme et femme, parce que là, on est mal barré. Mais il y a tout ce truc de t'es faible, t'es pas reconnaissant, mais regarde, t'as tout, et toi t'es triste, et toi t'es en dépression. La dépression, c'est un truc de blanc.
Ouais.
On a souvent ce truc. Sûr, ouais. De la dépression, c'est un truc de blanc, mais t'as
pas, on a pas ça chez nous.
Il y a pas ça chez nous, ça existe pas. Alors que des fois, on le vit, et peut-être que on en a vécu plusieurs fois des dépressions, mais même qu'on n'a pas mis le mot là-dessus, parce qu'on se disait, bah, c'est un truc de riche, c'est un truc de blanc.
J'ai pas le temps. Hein.
J'ai pas le temps. C'est pas ma priorité en fait, et j'irai mieux avec le temps. C'est pas grave. Le bonheur, je le mets sous le tapis, et je pense sincèrement qu'il y a plein de gens qui en ont vécu plusieurs, mais qui n'ont juste pas mis les mots là-dessus, et qui se sont soit guéris avec le temps, mais ça a pris beaucoup de temps, soit qui ne sont toujours pas guéris, mais elles ne le savent même pas en fait. Et donc à transmettre des traumas à leurs enfants, à leurs frères et sœurs, à leurs amis, à elles-mêmes, à leurs conjoints, conjointes. Donc ouais. Et toi, t'en penses quoi?
Écoutez, moi je suis d'accord. Moi, le truc aussi pareil de on n'a pas le temps d'être en dépression, on n'est pas malade, nous on survit, on n'a pas le temps, on est des bosseurs, regarde, on a tout. Justement, des fois, comme on disait au début, nos parents ils ont vécu des trucs encore plus durs que nous. Mmh. Alors, du coup, ils disent que nous ce qu'on vit, mais attends quoi? Attends, t'as l'école, t'as le goûter, je te fais à manger, je viens chercher. Si toi tu te plains, moi je dois faire quoi? Je dois exploser, tu vois. Il y a un peu ce truc là où ils se donnent à fond et ils comprennent pas qu'on soit pas encore heureux alors qu'ils ont sacrifié leur vie, leur âme, leur temps, leur argent, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout mis. Même s'ils n'avaient pas beaucoup, ils ont déjà tout mis, donc ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse être mal. Donc ouais, je pense aussi que c'est pour ça aussi que c'est tabou. C'est, ça serait, tu sais, pour les parents, c'est aussi un échec pour, ils ont l'impression de vivre un échec pour eux. Moi, je sais que quand même mon père, quand tu dis que j'étais en dépression, quand il a capté, parce que moi je suis allée jusqu'à l'hôpital psychiatrique, moi ça allait loin mon histoire. Le premier truc qu'il s'est dit, c'est j'ai raté un truc. Alors que rien à voir, tu vois, il avait rien à voir dans mon histoire de dépression, tu vois, au final. Et lui, ses premiers réflexes, c'est « Ah non, j'ai fait n'importe quoi, ah non. » Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est tabou, parce que je pense que les parents, ils ont tendance à vouloir faire genre que « Non, non, il n'y a pas de problème, ou fais ci, et fais ça. » Parce que s'ils ne trouvent pas la solution, c'est que ce n'est pas des bons parents, c'est qu'ils ont raté, c'est que c'est leur faute. Ils vont se culpabiliser eux-mêmes, tu vois. Donc je pense que dans un premier temps, si on remettait ça en mode « Bon, bah, c'est une maladie », ça arrive même à des gens qui ont tout, hein. Des fois, c'est juste, tu sais, c'est, comment ça s'appelle, c'est de la chimie, en fait, la dépression. Et des gens, ils n'ont même pas besoin de vivre des trucs hyper difficiles pour que ça pète, tu vois. Donc, je pense que déjà, remettre le truc en mode, c'est une maladie, ça arrive à tout le monde. C'est aux faibles, aux forts, aux pauvres, aux riches, ça nous tombera dessus. Et après, ouais, c'est ça, il faut que les solutions, elles arrivent à nous aussi. Je pense que c'est aussi le plus difficile, c'est qu'admettre qu'on a un problème, il faut trouver des solutions. Les solutions, on revient au début de la, du truc, c'est où est-ce qu'on les trouve. Maintenant qu'on sait, on sait qu'il y a des outils. Et maintenant qu'on sait qu'il y a des outils, on peut aussi réaliser qu'on est malade, parce que du coup on sait, on connaît le chemin pour se guérir. Voilà.
T'as bien clôturé la chose.
merci à vous trois en vrai pour ce moment. Je suis hyper contente, hyper reconnaissante de ce partage. J'espère que ça parlera à plein de gens. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront. J'espère que ça apaisera aussi des personnes, que ça donnera des outils à des gens. Et si vous voulez conclure avec une petite phrase, je vous en prie.
La conclusion, moi, ça serait oser être vous-même, vous prioriser et vous remettre au centre de votre vie parce que vous avez tout à l'intérieur de vous.
Moi, je dirais de pas s'accabler et croire qu'on est en échec parce qu'on est malheureux ou en dépression. C'est hyper important de comprendre que même ceux qui ne disent rien, tout le monde a quelque chose. Et du coup, votre seule solution, avant tout, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même, parce que tant que vous serez en colère contre vous-même pour un échec qui n'est pas un échec en fait, et une difficulté qui est collective, vous n'allez pas vous en sortir, donc soyez votre propre ami dans cette épreuve.
Voilà. Bah, merci pour cette dernière truc. Et donc, merci d'avoir regardé ce dernier épisode de On dit quoi. J'espère que ça vous a plu.
Et merci d'avoir écouté le podcast. Du coup, on est là au podcast.
Ouais.
Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aussi voir la vidéo sur B-Side Media et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très prochainement pour aborder un nouveau sujet.